Chapitre 6. Tuppence sur la piste.
Oh, mon Dieu, soupira Tuppence. Oh, mon Dieu. Elle jeta un coup d'œil morne autour d'elle. Elle ne s'était jamais sentie si misérable. Elle savait bien que Tommy lui manquerait, mais à ce point-là, elle ne l'aurait pas cru. Depuis le temps qu'ils étaient mariés, ils ne s'étaient pratiquement jamais séparés. Déjà, avant leur mariage, ils formaient ce qu'ils avaient appelé un couple de jeunes aventuriers. Ils avaient couru ensemble de multiples dangers, ils s'étaient mariés, ils avaient eu deux enfants et, au moment où le monde leur paraissait vieillir et s'assombrir, la Seconde Guerre mondiale était miraculeusement venue les reprendre dans les filets de l'intelligence service. Couple peu orthodoxe, ils avaient été recrutés par un homme tranquille et inclassable, qui se faisait appeler Monsieur Carter, et devant qui tout le monde avait l'air de s'incliner. Ils avaient de nouveau participé ensemble à de nombreuses aventures, ce qui d'ailleurs n'avait pas été prévu par M. Carter. En fait, celui-ci n'avait recruté que Tommy. Mais déployant des talents d'ingéniosité naturelle, Tuppence s'était si bien arrangé pour écouter aux portes que, quand Tommy était arrivé sur la côte, jouant le rôle d'un certain M. Meadows, la première personne qu'il avait aperçue était une dame entre deux âges, maniant des aiguilles à tricoter, et qui, avec un regard innocent, s'était présentée sous le nom de Madame Blenkinsop. Après quoi, ils avaient travaillé en tandem. Quoi qu'il en soit, se disait Tuppence, cette fois-ci, il n'y a rien à faire. Aucune indiscrétion, aucune habileté, rien ne pouvait la faire pénétrer dans le manoir top secret pour participer aux intrigues de l'UISS. C'est un club pour hommes seuls, se dit-elle avec amertume. Sans Tommy, la maison lui paraissait vide, le monde tragiquement dépeuplé. « Que vais-je bien pouvoir faire de moi ?» se demandait-elle. Question de pure rhétorique, car elle avait déjà effectué les premiers pas vers ce qu'elle comptait faire d'elle-même. Rien à voir cette fois avec le contre-espionnage ou quoi que ce soit de ce genre, rien d'officiel. Prudence Beresford, enquêtrice privée, voilà ce que je suis, se dit Tuppence. Après un déjeuner pris en hâte, la table aussitôt débarrassée fut à nouveau couverte d'horaires de chemin de fer, de guides, de cartes et de quelques vieux agendas que Tuppence avait réussi à déterrer. À un moment donné, au cours des trois dernières années, pas plus, elle en était certaine, elle avait fait un voyage en train et aperçu une maison par la vitre. Mais quel voyage et dans quel train? Comme la plupart des gens aujourd'hui, les Beresford se déplaçaient surtout en voiture. Ils ne prenaient le train que rarement et pour de longs trajets. Pour aller en Écosse, bien sûr, afin de rendre visite à leur fille mariée, Déborah. Mais on voyageait de nuit. Pour aller à Penzance, l'été, en vacances. Mais elle connaissait cette ligne par cœur. Non, ce voyage avait dû être beaucoup plus fortuit. Avec application et persévérance, Tuppence avait établi la liste de tous les déplacements qu'elle avait pu faire et qui pouvaient correspondre à ce qu'elle cherchait. Ils étaient allés une ou deux fois assister à des courses, s'étaient rendus une fois dans le Northumberland, à une ou deux reprises au Pays de Galles, avaient assisté à un baptême, à deux mariages, à une vente aux enchères, avaient livré de jeunes chiots pour rendre service à l'ami qui les élevait, mais qui se trouvait immobilisé par la grippe. Elle n'arrivait pas à se rappeler le nom de la gare de cette campagne aride, où avait eu lieu le rendez-vous. Tuppence soupira. Après tout, la solution de Tommy était peut-être la bonne. Acheter un billet circulaire et parcourir les lignes de chemin de fer les plus probables. Elle avait noté dans un petit carnet toutes les bribes de souvenirs, de vagues éclairs, qui pouvaient lui venir en aide. Un chapeau, par exemple. Oui, un chapeau qu'elle avait abandonné dans le filet à bagages. Et si elle portait un chapeau, alors il s'agissait d'un des mariages ou du baptême, certainement pas des chiots. Et autre éclair, elle avait enlevé ses chaussures parce qu'elle avait mal aux pieds. Oui, c'était une certitude, elle était bel et bien en train de regarder la maison quand elle avait enlevé ses chaussures. Donc, sans aucun doute, elle allait ou elle revenait d'une réunion mondaine. Elle en revenait bien sûr puisqu'elle avait mal aux pieds pour être restée trop longtemps debout dans ses plus belles chaussures. Et son chapeau, de quel genre était-il? Cela pourrait l'aider aussi. Un chapeau fleuri pour un mariage en été ou un chapeau d'hiver en velours? Tuppence était très occupée à noter les horaires des trains de différentes lignes quand Albert vint lui demander ce qu'elle voulait pour le dîner et ce qu'il fallait commander chez le boucher et chez l'épicier.
« Je vais m'absenter quelques jours, » lui répondit Tupens. « Inutile par conséquent de commander quoi que ce soit. Je vais faire un voyage en chemin de fer. Voulez-vous emporter quelques sandwichs ?»« C'est une idée. Achète-moi un peu de jambon ou autre chose. » »« Œufs et fromage ? Il y a aussi une boîte de pâté dans le garde-manger. Il y a belle lurette qui est là. Il serait temps de le manger. » Une recommandation peu engageante, mais Tupens acquiesça. « Très bien, ça ira. » « Vous voulez qu'on vous fasse suivre le courrier ?»«
Je ne sais même pas encore où je vais, » répondit Tupens.
« Ah !» dit Albert. Ce qu'il y avait de reposant avec lui, c'était qu'on n'avait jamais besoin de lui fournir une explication. Il acceptait tout comme allant de soi. Il sortit et Tupens se remit à son planning. Ce qu'elle cherchait, c'était une réunion mondaine exigeant un chapeau et des chaussures habillées. Malheureusement, celles qui figuraient sur sa liste se trouvaient toutes sur des lignes de chemin de fer différentes. Pour un des mariages, il fallait emprunter les chemins de fer du sud. Pour l'autre, ceux de l'est Anglie. Quant au baptême, il avait eu lieu au nord de Bedford. Si seulement elle se rappelait un peu mieux le paysage. Elle était assise à droite du train. Qu'avait-elle vu avant le canal ? Des bois, des vergers, des fermes ? Un village dans le lointain ? Tupens se creusait la tête. Sourcils froncés, elle leva les yeux. Albert était de nouveau là, attendant qu'elle fasse attention à lui. Elle était bien loin de se douter à ce moment-là qu'il allait représenter plus ou moins la réponse à ses attentes. « Eh bien, qu'y a-t-il encore, Albert ?»«
Si vous devez être absente toute la journée demain, et après-demain aussi, probablement, est-ce que je ne pourrais pas prendre ma journée ?»«
Si, bien sûr. »
« C'est Elisabeth, elle est couverte de boutons. Milly pense que c'est la rougeole. »
Milly était la femme d'Albert et Elisabeth sa plus jeune enfant.
« Seigneur !
Et Milly aimerait bien que tu restes avec elle, évidemment. » Albert vivait dans une gentille petite maison à quelques rues de là.
« Ce n'est pas tellement ça. Elle ne veut pas que je reste dans ses jambes quand elle est occupée. Je la dérange. Mais c'est les autres enfants. Je pourrais les emmener quelque part, la débarrasser d'eux. »
« Naturellement. Ils sont en quarantaine, je suppose. »«
Oh, ma foi, il vaudrait mieux qu'ils l'attrapent tous et qu'on en finisse une bonne fois. Charlie l'a eu et Johan aussi. »«
Enfin, cela ne vous pose donc pas de problème. » Tupens lui assura que cela ne lui posait effectivement aucun problème. Cependant, au tréfonds de son subconscient, naissait un sentiment d'heureuse anticipation, de réminiscence. Là, rougeole, oui, la rougeole. Cela avait quelque chose à voir avec la rougeole. Pourquoi diable la maison près du canal avait-elle un rapport quelconque avec la rougeole ? Mais bien sûr, Antea ! Antea était la filleule de Tupens, et Jane, la fille d'Antea, était en pension au collège. C'était sa première année et c'était la distribution des prix. Et Antea lui avait téléphoné. Ces deux cadets avaient attrapé la rougeole et elle n'avait personne à la maison pour les garder et Jane serait terriblement déçue qu'aucun proche ne vienne assister à la fête. « Tupens ne pourrait-elle pas, peut-être ?»«
Mais bien sûr !»
avait acquiescé Tupens qui n'avait rien de particulier à faire. Et elle avait entrepris le voyage, un train spécial avait été mis à la disposition des familles. Elle était allée chercher Jane à son collège, l'avait emmenée déjeuner dehors, puis l'avait escortée aux festivités sportives et autres. Tout lui revint avec une étonnante clarté, jusqu'à la robe d'été imprimée de bleuet qu'elle portait. La maison, c'était au retour qu'elle l'avait vue. À l'aller, elle s'était plongée dans un magazine, mais au retour, n'ayant rien à lire, elle avait regardé par la vitre jusqu'à ce que, épuisée par sa journée et les pieds endoloris, elle se soit endormie. Elle s'était réveillée au moment où le train roulait le long du canal. La campagne était partiellement boisée, avec de ci de là un pont, un chemin en lacet, une route secondaire, une ferme au loin, mais pas de village. Le train s'était mis à ralentir sans raison apparente, répondant sans doute à un signal. Avec quelques à-coups, il s'était arrêté près d'un petit pont en dodane qui enjambait un canal, lequel était visiblement tombé en désuétude. De l'autre côté de ce canal, tout près de l'eau, se trouvait une maison. La plus plaisante que Tupens se rappelait avoir jamais vue, paisible et irradiée par la lumière dorée du soleil de cette fin d'après-midi. Il n'y avait pas un être humain à l'horizon, pas de chien, pas de bétail. Pourtant, les volets verts n'étaient pas fermés. La maison devait être habitée, mais pour l'instant, elle était vide. « Il faut que je me renseigne, » s'était dit Tupens, « que je revienne la voir un jour. C'est dans ce genre de maison que j'aimerais vivre. » Avec quelques soubresauts, le train s'était lentement remis en marche. « Je vais noter le nom de la prochaine gare pour savoir où je suis, » avait pensé Tupens. Mais il n'y avait pas eu de prochaine gare à proprement parler. C'était une époque de changement dans les chemins de fer où les petites stations étaient fermées, voire démolies, et où l'herbe poussait sur les quais, laissée à l'abandon. Le train avait roulé encore 20 bonnes minutes, sans rien d'identifiable en vue. Tupens n'avait aperçu au loin, par-dessus les champs, que la flèche d'une église. Ils étaient passés devant un complexe industriel, de hautes cheminées et une rangée de maisons préfabriquées, puis ça avait été de nouveau la campagne. « Cette maison, c'est une espèce de rêve, » s'était dit Tupens. « Peut-être était-ce d'ailleurs vraiment un rêve ?»« Je ne pense pas que je reviendrai jamais la voir. Trop compliqué. Sans compter que je risquerais d'être déçu. »« Oh ! Et puis, après tout, qui sait, je tomberai peut-être dessus, un jour, sans le vouloir. » Et voilà, elle l'avait complètement oublié, jusqu'à ce qu'un tableau, aperçu sur un mur, soit venu réveiller ce souvenir enfoui. Et maintenant, grâce à un mot qu'Albert avait prononcé par hasard, sa recherche était terminée, ou, plus exactement, sa recherche commençait. Tupens étala trois cartes, un guide et divers accessoires. Elle connaissait en gros à présent la région qu'elle devait explorer. Elle marqua d'une grande croix le collège de Jane, la ligne secondaire jusqu'à son embranchement avec la principale vers Londres, la portion de trajet durant laquelle elle avait dormi. Finalement, ainsi délimité, ce parcours représentait un kilométrage considérable qui s'étirait du nord de Manchester au sud-est de Market Basing, ville modeste mais importante jonction ferroviaire, pour aller se perdre à l'ouest de Shaleborough. Elle décida de prendre sa voiture et de se mettre en route de bonne heure le lendemain matin. Elle passa dans sa chambre à coucher et examina de nouveau le petit tableau accroché au-dessus de la cheminée. Non, il n'y avait pas de doute. C'était bien la maison qu'elle avait aperçue du train 3 ans auparavant, la maison qu'elle s'était promis de revoir un jour. Ce jour était venu, ce jour, c'était demain.